Dan Gagnon pour le podcast tout seul, c'est le numéro 51. Comme d'habitude, je vous remercie tous ceux qui sont abonnés, ont partagé, se sont récemment abonnés sur iTunes, sur Spotify, sur Deezer ou encore sur YouTube. Merci beaucoup, ça fait une énorme différence pour moi. Merci à tous ceux qui partagent, c'est comme ça que le podcast grandit. Et ceux qui veulent particulièrement le soutenir, ceux qui aiment particulièrement ce que je fais, déjà je vous remercie, c'est sur Patreon. Donc patreon.com/dangagnonpodcast, ça vous donne un numéro de plus par semaine que les autres. Donc voilà, d'ailleurs le dernier numéro qui était disponible pour tous, c'était le 50, et j'ai fait quelque chose avec lequel je ne suis pas du tout à l'aise d'habitude, je me suis énervé. Et en public, j'essaie de jamais m'énerver, je sais pas, j'ai l'impression, j'ai toujours peur de regretter après, de dire trop de conneries, et souvent quand je fais des numéros où je m'énerve, à la fin, je me suis comme un peu calmé et je supprime le numéro. C'est arrivé au moins 3-4 fois. Et cette fois-ci, j'ai eu envie de le publier quand même parce qu'on a appris au moment d'enregistrer donc le numéro 50, c'était la journée où au Québec, on avait appris qu'on était dans une deuxième vague qui est principalement causée par des gens qui n'ont pas fait gaffe. Et ça m'a profondément cassé la tête. Et j'ai eu envie d'évacuer. Donc, si vous aussi, ça vous fait chier de voir les gens qui font n'importe quoi, eh bien, vous pouvez profiter de ce numéro comme un catharsis pour juste... Voilà, je n'ai pas la naïveté de croire que je vais avoir convaincu qui que ce soit de faire plus attention. Malheureusement, mais au moins, je suis plus calme par rapport à ça. C'est une petite victoire, mais je rentre ça dans la catégorie des victoires quand même. Ce numéro 51, c'est sur un sujet que j'ai lancé sur ma page Facebook il y a quelques jours. J'étais curieux de voir quel était l'appart ou la maison qui vous avait le plus marqué dans une série télé. La raison pour laquelle j'ai choisi les séries et non pas les films, c'est pas un hasard, parce qu'il y a quelque chose avec les séries, ou surtout les séries qui durent très longtemps, les lieux deviennent familiers et limite aussi importants pour toi que des lieux que tu as vus et tu as visités dans ta vie réelle. Parce qu'une série, il y a quelque chose de tellement réconfortant. Ça fait partie de ton quotidien. C'est ton happy place pour certaines personnes. Je sais qu'il y en a qui, quand ils se sont sentis plus seuls, Marina Rollman, que j'adore, en parlait récemment pendant un épisode de dépression, elle s'était bouffée tous les Seinfeld. Et donc, ces gens-là étaient devenus partie de son entourage. Et au lieu de faire ça sur les personnages, justement, avec qui tu as peut-être connecté, que tu as été triste quand ça s'est terminé, j'ai voulu le faire sur les appartements pour cette raison. Je suis tombé sur une question, ça devait être une copie d'un Reddit, I guess. Et c'est quelqu'un qui demandait dans Friends, qui est le personnage principal? Ce qui en soi est déjà une excellente question. Et pour ceux qui sont nés à la période où Friends était important, un débat sans fin. En passant, la réponse, c'est Monica. Voilà. Oui, mais je pense que t'as le droit d'avoir tort. La réponse, c'est Monica. C'est ce que je croyais jusqu'à ce que je lise la réponse qui, pour moi, est ultime. Quelqu'un a répondu, le personnage principal dans Friends, c'est l'appartement de Monica. Et je sais pas, il y a une porte qui s'est ouverte dans mon cerveau comme si j'avais fait du LSD à Woodstock. Mais évidemment que cet appart est un personnage comme n'importe quel appart dans lequel t'arrives. Il fait toujours un peu vite. T'aimes ou t'aimes pas, t'as un coup de cœur, t'es pas sûr, voilà. Mais ceux qui ont déjà été dans un appartement neuf, c'est encore plus marquant, je trouve, une maison neuve, c'est vide. Mais même tu mets des meubles, t'as l'impression de te promener dans un Ikea, quoi. C'est vide. Et c'est au fur et à mesure des expériences, forcément, que les murs, les lieux finissent par prendre une signification ou une importance. J'ai déjà fait tout un numéro sur la maison de mes grands-parents des deux côtés, donc je crois pas que ça vous surprend d'entendre que je crois beaucoup en cette chose-là. Mais une série, c'est pareil, encore une fois. Tu l'as regardé beaucoup à différents moments de ta vie. Les gens t'ont fait rire. Dans toutes les bonnes séries, il y a des beaux moments d'émotion. Et finalement, c'est dans ce lieu-là que tu ressens ça. C'est ce qui fait que les gens sont prêts à payer pour aller visiter des studios, parce que ce ne sont pas des vrais endroits, c'est des studios de cinéma, des studios de télé. Et je sais que le Central Park, par exemple, dans Friends, a été recréé, je crois que c'est dans une visite d'un studio de Warner Bros. Et ils ont fait le choix de laisser aux gens la possibilité de s'asseoir sur le fameux canapé orange, même s'ils savent que ça veut dire qu'ils doivent le remplacer régulièrement parce que ça le détruit. mais c'est à ce point important, tu es prêt à payer des sous pour pouvoir aller retrouver cette ambiance-là. Et je trouve que c'est encore plus fort quand la série est terminée. Et justement, parlant de terminer une série, je trouve que la preuve ultime, la démonstration ultime, la preuve, calmons-nous, que l'appartement de Monica dans Friends est absolument le personnage principal de la série, c'est la façon dont ils ont choisi de terminer la série. Au bout de 10 saisons, je crois qu'ils avaient exploité à peu près tous les axes qu'ils pouvaient pour les sujets. Comment faire en sorte, comment donner un sentiment de closure? Parce que l'affect pour Friends était très grand. Je crois que c'est 52 millions de personnes aux États-Unis qui ont regardé la saison finale. Il y a énormément de gens qui regardent la série en boucle sur Netflix. Et donc, l'affect que tu as au bout de 10 saisons, surtout quand tu l'as regardé en live, parce que c'était 10 ans de ta vie, tu la binge-watch, c'est quelque chose, mais 2 mois d'investissement émotionnel, c'est pas le même. Sur 10 ans, toi-même, tu as le temps de changer. Tu suivais la mode, tu as vu l'évolution des choses, l'évolution des personnages, enfin bref. Donc, c'est un deuil. Il y a vraiment quelque chose de deuil. Et je trouve que pour donner le sentiment de complétion, donc de closure au spectateur, le choix d'avoir vidé l'appartement et de le montrer vide, c'est la métaphore pour les funérailles n'est pas très difficile à trouver. Et la phrase de génie, d'ailleurs, que les auteurs ont écrite pour ça, c'est une fois qu'il est vidé, Joey qui dit « Est-ce qu'il a toujours été mauve, cet appart? » Ce qui est parfait, parce que ça montre à quel point le lieu est important, tu l'as intégré, tu ne l'as pas nécessairement remarqué, tu l'as remarqué sans t'en rendre compte, enfin bref. Je trouvais ça fort, surtout quand tu connais la difficulté de faire un épisode final pour terminer une série. Seinfeld disait que quand ils ont écrit l'épisode final, ils savaient qu'elle allait décevoir des gens. Il dit « Tu ne peux pas donner une fin satisfaisante. » Eux, c'était 9 saisons. À 9 saisons. Parce qu'en 1 heure, 1 demi-heure, 2 heures, dépendamment combien de temps dure ton special pour le final, tu ne peux pas recréer 9 années d'émotion et encapsuler le tout dans 1 heure satisfaisante. De toute façon, il n'y a aucun deuil qui est satisfaisant au moment de le vivre. Je pense. Et bon, donc voilà. En voyant ça, je fais, mais les appartements sont... Des séries sont plus que des appartements. Sont des personnages et qui vont survivre à la fin de la série, je trouve. C'est la seule chose que tu peux visiter au final, après, quand une série est terminée, quand tu fais le tour. Il n'y a pas les 6 acteurs qui sont là en train de faire des coucous sur place. Et donc, il y a un affect. Énormément de gens ont décoré en fonction de leur propre appartement aussi pour retrouver une vibe. Et donc, je me suis mis à fouiller un peu là-dessus et je voulais, donc j'ai posé la question, à savoir, vous, c'était lesquels vos appartements préférés? Et moi, j'ai commencé le bal en disant que l'appartement de Seinfeld, que j'ai regardé, moi, sur le tard. J'avais reçu tous les DVD à Noël. Et pendant 6 mois de ma vie où je me sentais un peu plus seul, effectivement, aussi, j'ai regardé, je me souviens, c'était le soir, en finissant de travailler, je rentrais, je mettais 1, 2, 3, 4, 5 épisodes. Pendant que je me faisais à manger, je mangeais, puis je faisais mon début de soirée avec Seinfeld. Ça me ramène aussi à quand j'étais plus jeune, je passais mes étés, bien plus jeune, quand j'ai commencé à vivre en Europe et que je passais quand même mes étés au Canada. À l'époque, mon père travaillait encore et donc il n'y avait que ma mère et moi dans la maison. Et moi, souvent, je faisais mes trucs dans la journée et quand je rentrais vers 16h30, je regardais, il y avait une série de sitcoms à la télé. En français, il y avait un épisode des Simpsons, puis après ça, il y avait un épisode de Friends sur une chaîne américaine, puis après ça, un épisode de Seinfeld que j'aimais pas à l'époque, puis à 18h, un autre épisode de Friends et à 18h30, un deuxième épisode de Seinfeld. Et à force, au fil des étés, j'ai fini par finalement regarder l'épisode de Seinfeld. Et j'ai fini par accrocher au bout de plusieurs années. C'était déjà des reruns. Et donc moi, Seinfeld, ça m'a marqué donc à 2 époques différentes. Donc j'ai un affect pour cet appart-là. Et évidemment, la maison de Phil dans le Fresh Prince of Bel-Air, le Prince de Bel-Air. Et j'écris ça. Et je vous demande toutes vos réponses. J'ai reçu une centaine de commentaires, à peu près un petit peu moins d'une centaine de commentaires. Donc, plusieurs qui m'ont dit que Airbnb propose de louer une chambre dans la maison Fresh Prince of Bel-Air. Évidemment, c'est que il s'était tourné en studio. Donc, c'est que le, ce qu'il appelle le establishing shot. Donc, quand il te montre une image de l'extérieur, cet endroit-là existe. Et tu peux aller dedans. C'est pas super cher, mais je sais pas exactement ce que c'est parce que tu as accès à une chambre, je crois, une salle de bain et la piscine, mais tu n'as pas accès aux autres pièces. Enfin, bref, je sais pas exactement quel est le deal, mais c'est sûr que le simple fait que ça soit la maison de Fresh Prince fait en sorte que ça va être loué parce que les gens veulent y aller, parce que la série est importante. Il y a un transfert d'affect entre la série et le lieu. C'est très, très souvent revenu l'appartement de Monica dans Friends. C'est vraiment la réponse qui est revenue le plus souvent. Très souvent, l'appartement des gars dans Big Bang Theory aussi. On m'a nommé aussi quelques-uns que moi, je connaissais moins. Beaucoup de vieilles séries, genre 7 à la maison, Fête de famille, Le Ranch dans Dallas. Et je crois que dépendamment de l'âge que tu avais en regardant les séries, ça te donnait un affect différent. Le seul truc, moi, qui m'emmerde un peu avec les séries, les apparts dans les séries américaines, surtout les plus vieilles séries, les sitcoms familiales, ça donnait l'illusion que quand j'allais être un adulte, j'allais avoir une baraque de 22 000 pièces, en fait. Et en fait, ils faisaient tous un pognon de dingue. Beverly Hills, pareil. Melrose Place, évidemment. Ça, on savait que c'était des riches, mais quand même, n'importe quelle série, ça te donnait l'impression que vraiment, c'était facile d'avoir un gros appart. Whitney nous a dit de la maison dans les Simpsons, dont j'ai jamais compris l'agencement. Et ça, j'ai bien connecté avec ça, parce que c'est en regardant le plan de la maison des Simpsons en bloc Lego que j'ai compris comment elle fonctionnait. Et même ça, même une maison imaginaire, je l'ai tellement vue, ils en sont à 30 saisons, qu'effectivement, j'ai un affect et je peux comprendre ce que Whitney dit. La petite maison dans la prairie, nous dit Sigrid. Oui, il y a quelque chose de forcément spécial. Kelly nous dit la maison de Buffy dans Buffy contre les vampires. Et les maisons de vampires, en général, sont géniales. C'est comme si, vu qu'ils ont vécu des centaines d'années, ils ont tous du goût et tous du pognon. On m'a dit, c'est pas une série, mais la maison des Cullen, très dans Twilight, très ouverte, dans le milieu de nulle part, je comprends. Tout à fait. Loïc nous dit, je vais tricher un peu et dire la Chevrolet Impala de 1967 dans Supernatural. Je ne connais absolument pas ce véhicule, mais je suis entièrement d'accord avec ce qu'il dit sur le fait qu'une voiture peut avoir le même feeling. Et sa justification à Loïc, c'est, bon, c'est une voiture et pas un appart, mais étant donné que les deux personnages font beaucoup de route et vont jusqu'à dormir dedans, c'est un peu comme une maison, non? Tout à fait. Quand je travaillais pour la radio Nostalgie en Belgique, d'ailleurs, ils faisaient gagner des voitures mythiques de séries et de films. Et c'était fou de voir la réaction des gens au concours. C'est des concours hyper populaires. La maison sur la plage de Grace et Frankie, nous dit Nathalie. Ça, c'est un autre truc. Les maisons sur la plage comme celle dans Californication aussi. Est-ce qu'elle est sur la plage, en fait? Non, elle n'est pas du tout sur la plage. C'est des fois, il y a des flashbacks où ils sont sur la plage. Dans Two and a Half Men. J'oublie toujours le titre en français, mais donc la série avec Charlie Sheen, où finalement, ça a été Ashton Kutcher qui a remplacé. Plusieurs personnes, dont Alexandra, ont dit l'appart de Punky Brewster. Donc, c'est surtout sa chambre colorée trop cool. Et oui, ça devait être vraiment chouette de voir ce qu'on pouvait faire avec une chambre avec autant de couleurs. Ensuite, bon, les appartements dans Friends, admettons d'Otis et Jean Milburn dans Sex Education. L'hôtel de Bates Motel, très bon choix de Nadège. La maison de Ricky ou la belle vie, on me le dit souvent, là, c'est Jay qui le dit. Et celui qui est revenu peut-être le plus souvent avec Friends et Big Bang Theory, c'est la maison de Lorelai dans Gilmore Girls. En plus, il y a eu le reboot récemment. Et moi, je connaissais pas vraiment cette série. Mais je veux dire, si, je savais ce que c'était. Je regardais quelques épisodes et plus souvent, genre, quand d'autres personnes les regardaient. Mais je suis allé fouiller parce que je dis, oh, mais je sais pas à quoi ressemble. Et je tape ça, je regarde. Déjà, c'est super beau. Mais il a l'air d'avoir un espèce de culte associé à cette maison parce qu'il y a énormément d'objets de déco qui se servent de la maison, des différents apparts dans Gilmore Girls. Entre autres, quelque chose que j'ai vu souvent, c'est vraiment le plan, comme quand tu achètes une maison, tu as une espèce de vue en plongée pour donner une idée un peu de comment les choses sont disposées. Et ces plans-là, en couleur, dans des cadres, sont utilisés très souvent, apparemment, pour décorer différentes maisons. Et je trouve que c'est une super idée. Si tu aimes des maisons dans des séries, va choper ces plans-là. Tu peux certainement trouver sans trop de problèmes sur Internet. T'en fais des cadres. Un t-shirt, je crois que ça pourrait être une super gamme de t-shirts aussi. Que les apparts. Et limite, tu ne nommes pas, tu fais juste mettre la disposition. Et comme ça, il n'y a que les gens qui savent, qui en te croisant, vois de quoi tu veux parler. Donc ça, c'était un peu le truc de base, mais comme je suis curieux et que grâce à ce podcast, j'ai du temps qui est littéralement consacré à juste apprendre, fouiller et chercher, je me suis mis à chercher en disant, bon, qu'est-ce que je pourrais trouver d'intéressant à dire là-dessus? Donc, je commence à chercher des fun facts. En me disant, bah, souvent, il y a des petits trucs qui vont cacher dans les apparts, des petites choses. Et honnêtement, j'ai pas trouvé grand-chose d'intéressant. Dans l'appart de Monica, dans Friends, on revient souvent avec le prix, en disant qu'aujourd'hui, c'est un appart qui vaudrait plusieurs millions, qu'à l'époque, ça coûtait probablement l'équivalent de 7-8 000 $ par mois pour cet appart, alors que soi-disant, elle est fauchée. Mais bon, ceux qui connaissent savent que l'appart, techniquement, est au nom de la grand-mère de Monica. Mais vous voyez un peu le principe. Et en cherchant, les seules petites infos que j'ai trouvées, c'est le frigo old school qu'on voit dans l'appart de Monica. En fait, c'est un frigo fonctionnel dans lequel il y avait les rafraîchissements pour les acteurs et les équipes autour. Il y a une poutre qu'on voit parfois, parfois pas, entre le salon et l'endroit où ils mangent, cette petite salle à dîner sur la cuisine, qui était là au début, qui a disparu. Et comme c'est une série qui était réalisée par différentes personnes, apparemment, quand c'était un des réalisateurs, il remettait toujours la poutre comme un genre de running gag. Donc, c'est pas des anecdotes dinguissimes. Les chaises autour de la table dans l'appart de Monica, ils changent. Elles sont dépareillées toujours, mais ils changent pour montrer que Monica est genre bien chinée. Le mood, ça se voulait ça aussi. Un mood de quelqu'un qui récupère des objets un peu partout. Le numéro de porte change. Au début, c'était les numéros 4 et 5. Puis comme c'était un appart qui est supposé être en hauteur, ils se sont dit que c'était plus logique de mettre plutôt 19 et 20, tu crois. Le petit cadre doré, jaune doré, qui est au-dessus du judas de la porte, autour du judas de la porte. À la base, c'était un miroir qui était cassé. Ils ont gardé le cadre, ils s'en sont servis. Ils l'ont mis un peu à la dernière seconde, parce que sinon, c'était un espace trop vide. Et c'était comme ça qu'ils ont habillé le truc. Donc, rien de foufou. Il y a apparemment une certaine anomalie, c'est-à-dire quand tu vois l'image de l'extérieur, le fait qu'il y ait un balcon n'est pas nécessairement logique. C'est tout ce que j'ai su pour Friends, mais vous allez voir, je ne vous décevrai pas, il y a d'autres choses qui arrivent. Big Bang Theory, même principe. Très bel appartement. Oh, ça me fait penser beaucoup, on dit How I Met Your Mother aussi, qui est la même logique, un appart ouvert. New-Yorkais. Donc, dans Big Bang Theory, il y a deux, trois petits trucs qui sont quand même marrants. Il y a un drapeau. Sheldon, le personnage de Sheldon, est fasciné par les drapeaux. Donc, il y a un drapeau dans l'appartement, qui est le drapeau de l'appart. Et quand Sheldon et Leonard s'engueulent ou sont un peu en bisbille, le drapeau est à l'envers pour montrer, signifier la détresse. Dans tous les livres qu'il y a, ce sont des gens de science, dans tous les livres qu'il y a, il y a un des livres que tu peux voir dans la bibliothèque de Sheldon qui a été écrit par le personnage qui joue Amy Farrah Fowler, qui elle-même a un doctorat, un PhD dans la vraie vie. Donc voilà, ces deux petites choses-là. Et je me dis, bof, il n'y a pas de quoi faire nécessairement des anecdotes de dingue, mais je fouille un peu et en fait, je réalise que Two and a Half Men, Friends et Big Bang Theory, ce sont des décors qui ont été créés par la même personne. C'est un gars qui s'appelle John Schaffner. Et John Schaffner a travaillé sur plus de 150 pilotes, a fait plus de 50 séries, a commencé par... il a travaillé à l'époque sur The Golden Girls, qui est une série des années 80. Et il a fait Dharma et Greg aussi, Mike et Molly, et etc., etc., etc. Et cette personne est... totalement fascinante. Parce qu'en fouillant un peu, j'ai trouvé quelques interviews de la personne qui explique son travail. Donc, en gros, elle, c'est ce qu'on appelle en anglais le production designer, le décorateur de production, je ne sais même pas comment dire en français, qui lui a travaillé après ça avec plein de gens dans son équipe. Mais c'est lui qui a la vision. Et il disait dans une interview qu'en fait, il y a le plus beau job au monde. Il dit, toutes les séries, tous les trucs que vous aimez, à quelque part, il y a eu dans la boucle un production designer qui, lui, a reçu le script avant les réalisateurs. On lui a dit « Voici une histoire qu'on va faire. » Il dit « Moi, je lis le script et c'est mon job et ma joie d'imaginer où va se passer cette histoire. » Et il voit vraiment un film ou une série comme étant deux éléments principaux, les personnages et le lieu, et il les voit vraiment sur un pied d'égalité. Et je trouvais ça fascinant. Il dit que ces deux premières questions qui se posent en lisant un script, c'est qui sont ces gens? Voilà. Et que ressentent-ils? Et je trouve ça merveilleux. C'est donc vraiment pas un hasard si tu as un mood particulier en regardant ces apparts. C'est voulu, c'est le premier objectif. Il veut que l'appart soit là, le prolongement de l'histoire, le prolongement des personnages. Et il raconte que les seules personnes avec lesquelles il essaie de pas vraiment échanger, ce sont les acteurs. Il dit, eux, leur job, c'est de créer le personnage. Moi, c'est de créer l'endroit où ils vont vivre. Si on commence à un peu trop interagir, finalement, tu deviens ami avec les gens, tu peux commencer à faire des faveurs. Il dit, moi, je travaille qu'avec l'équipe de production. Et dans le cas de Friends, par exemple, il dit, je voulais montrer que Monica est quelqu'un qui est un peu genre whimsical. Whimsical, c'est genre la la la, un peu magique, qui aime collectionner un peu tout, qui n'hésite pas à faire un amalgame. Et donc, il dit, et dans son appart, et même dans le Central Perk, il y a un côté un tout petit peu dépassé, old school. C'était pas très moderne, c'était pas très années 90-90. Dit le café, par exemple, c'est plus une espèce d'héritage hippie avec une collection d'amalgames, de choses qui ne vont pas nécessairement les unes avec les autres, les énormes tasses de café, le côté un peu poète qui peut venir écrire, Phoebe qui est justement un peu hippie, qui de temps en temps joue de la musique. Il n'y avait pas ça à New York à l'époque, c'était juste la vision qu'on avait des choses. C'est pour ça que l'appart de Monica, il y a autant de petits objets dépareillés. C'est pour montrer qui est le personnage, quel genre de personne elle est, de vision qu'elle a des choses. Et selon lui, John Schaffner, dans une interview que je voyais, ils ont posé la question et j'ai trouvé ça tellement logique. J'avais jamais pensé à ça, mais ça fait énormément de sens. On dit, comment est-ce que Friends a influencé le design intérieur? Parce qu'on parle des cheveux de Jennifer Aniston, les gens demandaient la coupe Rachel dans les années 90-90, les vêtements, mais il y a aussi la mode dans le design intérieur. Il dit, je crois qu'on a rapporté beaucoup de couleurs. Et je crois qu'on a aussi créé la mode des ambiances un peu bric-à-brac, quoi. Et ça, c'est une interview qui datait de 4-5 ans où il dit, les gens sont revenus à une esthétique beaucoup plus pure, et avec tout ce, peu de choses près ce qu'il disait, c'est avec les chaînes de télévision, Instagram, Pinterest, tout ça, les gens reviennent un petit peu à du matchy-matchy et du plus pur, mais il dit, nous, on a des intérieurs chargés, fournis. Et j'ai trouvé ça tellement intéressant comme vision. Dans Big Bang Theory, il fait une visite, si vous voulez voir ça, vous tapez John Schaffner, Schaffner, Big Bang Theory. Il est sur le plateau et pendant 12 minutes, il explique sa vision des choses. Donc, il dit, la première étape, je reçois le script, je m'imprègne de tout ça. Et après, il fait soit un dessin en 2D ou une maquette qu'il va présenter au producteur. Dans Big Bang Theory, la raison pour laquelle il y a un ascenseur qui est défectueux, c'est parce que sinon le couloir allait faire trop vide, il y a de l'espace perdu. Et donc, il a ajouté un ascenseur. Les producteurs lui disent, oui, mais nous, on a besoin des escaliers parce que ils vont parler en montant les marches et ça fait partie genre, intégrante de la façon dont on veut faire les choses. Et c'est comme ça qu'ils ont dit, bah, tu sais quoi, c'est un élément de déco, mais on va juste faire en sorte qu'il soit condamné. C'est devenu une partie de l'histoire. Il raconte ses moments de panique aussi. Il dit, nous, on fait un épisode, parce que les gens disent, une fois que tu as créé le plateau, tu n'as plus besoin de t'inquiéter, c'est à Tricam, donc le plateau reste le même. Il dit, à chaque épisode, il peut avoir 6-7 plateaux déjà différents. Et en fonction, c'est genre Thanksgiving, c'est Noël. Quand Monica Chandler change d'appartement, quand les gars et les filles changent d'appartement dans Friends, il dit quand il a lu le script, il a paniqué totalement en se demandant s'il fallait pas redécorer le tout. Et il a compris après que ça allait aller. Mais il dit à chaque fois qu'ils ont une nouvelle idée, Friends par exemple, c'était assez marquant, ils voulaient toujours finir les saisons avec un épisode un peu grandiose. Ils disent, OK, on va aller dans les Caraïbes. Donc tu dégages tout le set, puis on a besoin de 7 nouveaux lieux, puis en passant, il va toujours pleuvoir. Et disons que c'est des défis. Des fois, c'est aux 2 semaines, au jour le jour. Donc ça, c'est mon boulot. Une fois que moi, j'ai la vision, j'envoie les gens chercher, les objets. Dans Friends, un jour, ils sont à Londres pour un épisode final. Ils vont vraiment à Londres. Le premier épisode de la saison suivante, il se fait appeler en disant « On a besoin que tu recrées la chambre d'hôtel. » Mais il dit « Nous, on avait fait ça à Londres. » Et là, il faut retrouver la tapisserie, le même lit. Et donc, j'appelle mes gens en disant « On va faire du mieux qu'on peut. » Et apparemment, c'est pas exactement la même chambre. Mais il dit « Les gens n'y ont vu que du feu. » Donc voilà, pour revenir à ce que je disais, donc ils créent le modèle. Après ça, les producteurs acceptent ou pas. Et puis, ces équipes vont chercher chacun des objets. Ils le font. Après ça, les acteurs répètent dans le décor. Après, les caméras arrivent et ils font des tests. Là, ils font les derniers ajustements. Et puis après ça, c'est réglé. Mais quel beau boulot! Je ne savais pas que John Schaffner avait eu autant d'influence dans ma vie. Il a créé les décors, des endroits qui m'ont permis de m'évader. Je ne sais pas combien de fois, qui m'ont remonté le moral quand j'étais triste, qui m'ont fait sentir moins seul. Parce qu'il a su sentir l'importance d'un mood et de le prolonger avec des objets. Quel magnifique, magnifique métier. D'ailleurs, pour Friends, je finis avec deux anecdotes. Entre la saison 1 et la saison 2, ils ont changé de plateau. Et le premier plateau était beaucoup, beaucoup plus petit. Et dans le deuxième, à partir de la saison 2, c'est beaucoup plus grand. Et moi, je n'ai jamais remarqué la différence. Et il dit qu'à l'époque, quand il a commencé la télé, les objets n'avaient pas la même importance. Il dit que les décors, quand c'était fini, c'était foutu dans un entrepôt. Et aujourd'hui, toutes les séries qu'il fait, à peu près tous les objets sont gardés, sont conservés pour pouvoir en faire des genres de musées. Et je peux comprendre, quoi. Et il a répondu à la fameuse question. Et c'est comme ça que j'ai terminé l'épisode. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous rappelle que si vous aimez ce que je fais, vous abonner, ça change ma vie, littéralement. Sur Spotify, iTunes, vous pouvez aussi laisser des commentaires, des étoiles sur iTunes, si c'est encore le cas, je crois. Ça fait beaucoup de différence. YouTube, pareil. Et encore une fois, si vous êtes particulièrement content de mon travail, patreon.com/DanGagnonPodcast. Donc, John Schaffner a répondu à cette fameuse question, à ce fameux point que tout le monde soulevait en disant comme « Oui, mais Monica, ça fait pas de sens qu'elle soit dans cet appart, étant donné qu'elle est supposée être fauchée et que l'appart valait cher. » Est-ce que je savais pas? Il a dit la raison pour laquelle on l'a établi au 5e-6e étage, ça n'a jamais été entre 4 et 6, ça n'a jamais été déterminé, c'est que comme il n'y a pas d'ascenseur dans le building, à New York à cette époque-là, donc les années 90, à chaque étage que tu montais sans ascenseur, le coût de l'appartement diminuait. Parce que personne ne voulait se taper 6 étages sans ascenseur parce que ça devenait fatigant dans une ville où tu marches autant aussi que New York. Et donc, pour lui, ça justifie le fait que c'était totalement crédible que l'appart n'était pas si cher que ça, peu importe l'espace qu'il y a, parce qu'il fallait se taper tous les escaliers. Donc, si un jour vous êtes projeté dans le passé, vous avez un débat sur le prix de l'appartement de Monica dans Friends, bien la version de 2002 de vous-même, là, risque d'être solidement contente d'avoir écouté ce podcast. Donc, merci beaucoup d'avoir commenté. Et j'ai plus rien à dire pour aujourd'hui. On se retrouve avec le numéro 52 qui sera exclusivement pour les abonnés de Patreon. Et puis 53 et 54 qui seront des numéros normaux.